Belle matinée à tous sur Radio Bulle 93.6. J'espère que la journée démarre avec de bonnes ondes. C'est un petit peu notre travail hein, ici chez Radio Bulle. Et tiens, on vous amène aussi un peu de douceur par les airs Lot-et-Garonne. On parle senteur, on parle histoire, on parle entrepreneuriat ce matin avec Cécile Hennequin-Pavageau. Bonjour Cécile.
Bonjour Samia.
Entrepreneur connu ici en Lot-et-Garonne. On va parler de ta nouvelle activité, ton besoin de te réinventer aussi, parce que c'est un parcours qui est très inspirant et qui donne envie eh bien voilà, d'être suivi d'un peu plus près. Je t'ai présenté ce matin quand t'es arrivé à Jérémy Gasnier, co-président de chez Radio Bulle. Du coup, je lui ai dit tu restes pour l'interview. Bonjour Jérémy.
Bonjour Samia, bonjour à tous.
Tu sors de nuit et tu viens nous voir sur la matinale.
Absolument, donc ouais, il est un petit peu tôt pour moi, mais bon, écoute, tu m'as vendu cette interview avec tout plein de senteurs incroyables. Alors
il va falloir que je sois à la hauteur là.
Ouais, piquer ma curiosité.
Bon, ben c'est bien si ça pique ta curiosité. Moi, ce qui pique aussi ma curiosité, au-delà de ce produit et aussi de cette belle promesse Made in Lot-et-Garonne, c'est d'abord le parcours de Cécile Hennequin-Pavageau, qui est un entrepreneur. Tu es une entrepreneur, on peut dire entrepreneuse, je ne sais même pas en fait aujourd'hui si on dit entrepreneur.
Alors, je vois plus de entrepreneureux.
Ouais.
Personnellement, je préfère chef d'entreprise. Enfin, tu m'appelles comme tu veux.
Chef d'entreprise,
je suis pas
donc voilà.
Attaché au titre.
Ouais. Non, mais en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est les initiatives. Et en plus, quand elles sont portées par des femmes qui ont, bah voilà, on le sait, hein, des impératifs familiaux, etc. Toi, tu as 4 enfants
oui.
et tu t'arrêtes jamais quand même.
Non, mais ça, c'est une question de tempérament. Effectivement, ouais. J'ai très, très peur de m'ennuyer, moi. Donc, ouais. Donc j'ai 4 enfants, dont les 2 dernières qui ont 18 mois et 2 mois.
Bravo. Donc, en fait, toi, tu t'ennuies pas, là?
Non, j'arrête jamais, moi.
T'arrêtes jamais et tu reviens avec une initiative qui m'a un petit peu étonnée, épatée. Parce qu'on peut rappeler un petit peu ton parcours et ce que tu as fait jusqu'à présent.
Oui, alors au départ j'ai une formation assez généraliste, j'ai occupé des postes en communication et en marketing comme salarié. Et puis, j'ai toujours eu des velléités, moi j'aime bien le développement de projets, j'aime bien les choses qui avancent. Et en 2020, par là, je me suis lancée à mon compte. Comme consultante en marketing, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai proposé à des entreprises de continuer à faire mon métier, sauf que pas à temps complet, à temps partagé sur différents secteurs, etc. Et donc, j'ai continué à faire mon métier, c'est-à-dire à faire du storytelling, du branding, etc. Ouais. pour d'autres. Et puis, la vie avançant, les projets familiaux changeant.
Ouais.
Moi, il y a des moments, effectivement, où j'ai besoin de me réinventer. Ouais. Et là, je me suis dit, j'ai envie de créer un produit qui me plaise, de faire du marketing pour moi,
ouais.
De parler de sujets qui m'inspirent, de marier mes passions. Moi, j'aime les odeurs,
ouais.
j'aime l'histoire de France.
Ouais.
Et donc, Alienoria, c'est un petit peu ce projet qui réunit tout ça.
Et c'est de ça dont on va parler ce matin. Et voilà, ce qui m'a épaté, c'est ce côté ouais, créativité que tu mets en avant cette fois-ci. Et moi, je ne t'attendais pas du tout là-dessus. Donc, je suis vraiment ravie, en fait, parce que...
Mais je ne suis pas sûre que je m'attendais moi-même là-dessus. Hein.
Bon, on est d'accord. Quand même, non mais c'est vrai, en te connaissant un petit peu, j'ai dit punaise, c'est bien, elle prend un risque et elle va dans quelque chose en plus, dans de la douceur je trouve, avec Alienoria qui mêle, tu le disais, ta passion pour l'histoire et puis aussi c'est vrai, les odeurs c'est quelque chose, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, ça permet aussi de mettre un petit peu des rondeurs dans un quotidien qui des fois n'est pas une actualité beaucoup plus, de manière beaucoup plus large qui n'est pas très facile, et d'amener un petit peu de douceur, est-ce que ça fait partie aussi
d'une quête ?
Alors il y a
de la douceur mais il y a du caractère, ce qui est ouais. intéressant avec les parfums c'est que ça raconte des histoires, c'est lié à notre passé, c'est lié à nos souvenirs, ouais. à nos émotions, c'est pour ça d'ailleurs que sur un même parfum on aura 40 avis différents selon les personnes parce que ça viendra pas mobiliser les mêmes choses en soi, mais c'est un des premiers sens en fait qui est mis à contribution, parce que déjà quand on est dans le ventre de sa mère on commence déjà à sentir des
ouais.
choses
ah.
donc le parfum c'est très très personnel, très intime,
très intuitif aussi,
très intuitif, très très subjectif,
ouais.
voilà, c'est toute la difficulté aussi de
Exactement,
concevoir des,
ouais.
des produits parfumés. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est ramener toute cette richesse du parfum dans des parfums d'intérieur qui ne sont pas toujours conçus pour raconter des histoires.
Alors, des parfums en brume, bien entendu. Il y a des fondants, des suspensions, des bougies, du diffuseur. On va en parler. On va aller voir un petit peu comment tu es parti chercher tes inspirations. Mais ce que je voulais dire, déjà, Jérémy, toi, quel rapport tu cultives, notamment avec le parfum, tout ça, comment tu l'utilises? Parce que c'est toujours intéressant de savoir.
Alors, moi, j'utilise très peu de parfums. Moi, j'ai un parfum que j'utilise fréquemment et c'est toujours le même, en fait. Ouais. Je vais pas donner la marque.
Ça, mais c'est ton parfum, toi.
C'est mon perso.
Et d'intérieur?
Et d'intérieur, de temps en temps, moi je suis plus encens.
D'accord, ok. Ouais.
Mais bon, j'en mets pas souvent parce que c'est surtout quand il y a des gens qui viennent pour mettre une petite ambiance, tu vois. Ouais. Mais moi c'est plus de l'encens que des parfums d'intérieur. Et après, moi je suis par contre au niveau de l'odorat, je suis vraiment pas doué en fait.
Ouais.
Tu vas me faire sentir une odeur, je vais te dire oui ça sent bon, mais je suis incapable de te dire s'il y a de la rose, s'il y a du.
Ouais.
Alors je vous rassure en fait, quand on se forme à la parfumerie,
ouais.
Ouais.
Ce qu'on vous apprend au départ, c'est justement à ne pas chercher à déterminer ce que c'est.
D'accord.
On vous apprend à la décrire. On vous apprend à être capable de différencier les différentes facettes qu'il va y avoir dans une odeur.
Mmh.
Et à la fin, effectivement, bon, vous allez peut-être trouver ce que c'est. Mais il faut bien comprendre qu'une odeur, elle est composée de plein de choses. C'est-à-dire qu'une odeur de cèdre, il va y avoir quelques notes florales de fruits dedans. Et c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est d'être capable de déterminer toutes ces facettes et toutes ces richesses pour voir après comment on va les recomposer entre elles.
Donc en fait, tu es en train de nous dire que ça se raconte une odeur.
Ça se raconte une odeur, il y a des odeurs qui vous emmènent vraiment en voyage, quoi. Ouais. Je veux dire, quand on sent par exemple une huile essentielle de santal, on démarre sur du bois, mais c'est hyper fleuri.
Ouais.
Et puis le santal, les notes, elles tiennent super longtemps et elles vont évoluer. Les matières naturelles, ça évolue. Donc quand on sent les premières notes qui viennent, ben, c'est pas celles qu'on va sentir 5 minutes après.
Donc Aliénoria, le point de départ, c'est ta fascination pour le personnage historique qu'est Aliénor d'Aquitaine. Est-ce que tu peux nous planter? Parce qu'il y a une vraie histoire, il y a un vrai fil rouge, il y a quelque chose de très oriental, je trouve, dans le packaging. Je vous le montre, hein, les amis, sur les réseaux sociaux, sur Insta et Facebook. Je sais que tu as passé quelques années de ta vie
au Qatar.
Au Qatar, hein, c'est ça. Donc, est-ce que tout ça aussi est venu? Tu as raccroché les wagons quelque part?
Alors, quelque part, il y a effectivement un raccrochage de wagon.
Ouais.
Le personnage d'Aliénor d'Aquitaine est un personnage qui est absolument fascinant parce que c'est une femme à une époque où, techniquement, la seule chose qu'on lui demandait, c'était de ramener sa dot et de pondre des héritiers.
Exactement.
Voilà. Alors, c'est une femme qui était duchesse d'Aquitaine, donc le meilleur parti d'Europe, qui a été 2 fois reine de France et d'Angleterre. Elle a accompagné le roi de France en croisade et c'était un sacré personnage, quoi. Alors, sacré personnage, c'était pas une gentille dame gentille et jolie qui restait gentiment derrière son mari. Hein.
Ouais.
Elle a eu des traits particulièrement agressifs. Bon, c'était l'époque qui voulait un petit peu ça aussi.
Ouais.
Et la cour d'Aquitaine était une cour flamboyante, la plus prestigieuse d'Europe, très très loin, devant la cour des Plantagenêt ou la cour de France qui était... À l'époque, on peut pas être désagréable, mais pas loin de l'âge de pierre quand même. Hein.
Ouais, donc, c'est vrai.
Donc voilà, donc, la cour d'Aquitaine, c'était flamboyant. Il y avait des senteurs, des jardins, des odeurs. Il y a déjà du vin, hein, puisque c'est la boisson principale qu'on consomme au Moyen-Âge. Et puis, il y a les croisades. Donc finalement, c'est le premier moment de l'histoire où on voit des odeurs orientales qui commencent à être intégrées, effectivement, et à venir en Occident. Donc sur la gamme Aliénoria, effectivement... On retrouve beaucoup ça, on retrouve beaucoup d'Orient, parce que ça, c'est aussi mon parcours personnel. Moi, les ouds des souks qataris, ça m'a jamais quitté. Quoi. C'est les épices, tout ça, c'est des choses que je veux retrouver. Alors, il faut faire attention avec ce type d'odeur, parce que c'est des odeurs assez fortes, donc il ne faut pas non plus que ça devienne entêtant dans un parfum intérieur.
Ouais, ouais.
Donc, il y a des dosages à gérer, mais voilà, c'est tout cet univers-là, cette énergie que j'ai voulu mettre dans des produits parfumés, un petit peu recherché, 100% made in France. Hein, le but, c'est vraiment de valoriser aussi l'artisanat français.
Alors, on sait très bien qu'en t'appelant, on va être dans ce cahier des charges-là, vachement éthique et avec aussi ces valeurs-là. C'est important hein, aujourd'hui. Tout à l'heure, je t'amènerai un petit peu sur tout ce qui est dématérialisé et se raccrocher aux valeurs. Aujourd'hui, c'est important de travailler. Alors, on va en parler. Hein, tu t'es formée là-dessus. Tu travailles essentiellement avec...
Que des cires végétales, françaises ou européennes, quand vraiment on n'a pas le choix. Je travaille avec des maîtres ciriers qui sont en France, qui coulent à la main. De toute façon, les bougies, c'est très compliqué à industrialiser et c'est pas le but de la manœuvre, très clairement. Les parfumeurs, ils sont à Grasse, parce que c'est la capitale mondiale du parfum.
Mais on a de la chance.
Absolument, il y a un terroir qui est magnifique et qui, là aussi, renaît, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui étaient utilisées dans la parfumerie dans le 19e, qui n'étaient plus cultivées en France. Incroyable. Parce que les cultures étaient compliquées, etc. Et ça revient. Donc il faut valoriser aussi ces savoir-faire-là, parce qu'il faut comprendre que pour produire des gouttes de parfum, je ne vous raconte pas le boulot qu'il y a derrière sur la culture, ramasser les fleurs, les traiter, et pour, je dis n'importe quoi, 100 kilos de fleurs de jasmin, on va peut-être extraire 10 centilitres d'huile essentielle. Enfin, Donc, si vous voulez, tous ces savoir-faire-là sont très beaux. Il y a une vraie culture du parfum en France.
Un vrai savoir-faire.
Il faut la valoriser à fond. Ouais. Et le parfum, c'est pas uniquement les parfums de peau. Les parfums, des odeurs, vous en avez partout. Moi, je suis nue aux odeurs par le vin. Un parfum d'intérieur, enfin, ou un parfum tout court, ça se construit un peu comme un vin. Il faut une structure pour porter les odeurs, il faut monter une pyramide olfactive, etc. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes, moi, je trouve, entre le vin et le parfum. Et moi, j'ai voulu ramener ça, effectivement, dans des bougies, des suspensions qu'on met dans les placards, etc.
Comment tu le présenterais, l'univers d'Aliénoria, Cécile Nkimpavajo?
Alors, je dirais que ce sont des parfums pour la maison qui racontent des scènes d'histoire. Voilà.
Ok, super.
Voilà.
D'accord. Alors là, on a diffusé en studio Zéphyr de Lune Opaline.
Absolument.
Comment tu peux nous le raconter un petit peu? Comment tu peux nous raconter cette brume c'est très... Alors, je vous le dis, les amis, c'est tellement délicat. C'est cette odeur, en fait, vous savez, qu'on assimile, qui nous dérange pas, mais qui nous ramène régulièrement, en fait. Ça veut dire quand, je sais pas si vous voyez, mais quand on a quelqu'un en face de nous et qui sent bon, mais ça nous prend pas la tête, et quand elle part, on dit mince, elle est plus là, ça sentait bon quand elle était là. Bah, c'est exactement cette impression que j'ai avec la brume. Depuis tout à l'heure, on est en studio, elle nous accompagne et ça prend pas la tête, mais on en redemande sans cesse.
Alors, c'est toute la difficulté d'un parfum d'intérieur, c'est qu'il faut pas qu'il soit entêtant,
mais
il faut quand même qu'il soit un peu persistant. Parce que,
exactement, parce que c'est là, ça. Et ça revient.
Oui, absolument. Le parfum sur la peau, il s'accroche entre guillemets. Alors, il va virer ou varier avec votre peau. Par contre, le parfum d'intérieur, il est dans l'air, donc il s'évapore. Donc, la vraie difficulté, effectivement, c'est de réussir à doser sa puissance. Mais en même temps, il ne faut pas que ça fasse mal à la tête. Alors, Zéphyr de Lune Opaline, il est plutôt conçu, je dirais, c'est plutôt une scène du soir. C'est plutôt, il porte bien son nom, c'est plutôt une scène de d'émergence de la lune, avec quand même en tête des notes de bergamote et de pomme pour amener un petit peu de peps au démarrage. Donc, en fait, un parfum, il est construit sur une pyramide. Vous avez les notes de fond, donc en fait, qui sont un petit peu... un peu comme les tanins dans un vin, c'est ça qui va amener la structure, c'est les notes les plus persistantes. Et puis vous avez au-dessus les notes de cœur, donc qui vont venir donner vraiment l'identité la plus forte du parfum. Et puis vous avez les notes de tête, qui sont en fait les premières odeurs que vous allez sentir en diffusant la brume. Et là, en général, on aime bien amener des choses un petit peu qui amènent du peps et de la fraîcheur, parce qu'on est quand même sur un parfum d'intérieur, il faut que ça ait un aspect propre. Sur Zéphyr de Lune Opaline, on est sur une entrée pomme bergamote, sur des notes de cœur plutôt très florales poudrées, donc fleurs blanches et musc, avec un petit côté ancien, tu sais, de poudre de grand-mère, c'est un petit peu ça. Et sur le fond, on est sur des notes de santal et de bois sec. Alors moi, personnellement, je suis une fan du santal. J'en mets quand même pas dans tous les parfums, parce que ça coûte très très cher, le santal. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne un soutien boisé, mais tellement élégant et qui raconte tellement de choses. Le santal, c'est absolument magnifique.
Et on peut le dire, d'ailleurs, tu dis ça coûte très très cher. C'est un vrai investissement pour toi. En tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, d'être parti sur des matières aussi nobles. Il y a une vraie formation derrière. Tu te formes avec des équipes, le CFA notamment de Grasse. Hein, donc c'est la référence en France et puis dans le monde aussi. Grasse, de partir là-dessus, je sais que tu as une vie hyper structurée, ton mari il te suit toujours, etc. Mais c'est quand même un challenge.
Oui, d'ailleurs, il faut que j'arrête de monter des projets parce qu'un jour il ne me suivra plus. Il en aura marre peut-être. Oui. Mais oui, c'est un vrai challenge, c'est un test match. Hein. Ouais. Très clairement, aujourd'hui, on n'est pas parti sur des grandes quantités en production, ouais, parce que je veux être sûr que ça marche.
Bien sûr, ben oui.
De lancer les poneys, hein. Il y a quand même des engagements financiers derrière. Et puis les choix qui ont été faits sont fatalement des choix qui coûtent cher. Hein. Ouais. Le made in France, c'est bien, mais la cire végétale, c'est plus cher qu'une paraffine. Mmh. Quoique, vu l'évolution du cours du pétrole en ce moment, ça va peut-être changer.
Ouais.
Ça va peut-être changer, mais en termes aussi d'impact sur la santé, on est sur des produits qu'on diffuse dans l'air, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait.
Exactement.
Tous les parfums là, qu'on utilise, ils sont garantis sans CMR, donc sans composés cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, et ils sont sans phtalates, parce que accessoirement, vous les mettez dans le nez. Donc,
bien sûr.
Et quand vous les mettez dans l'air, vos enfants se les mettent dans le nez aussi. Donc, dans la mesure du possible.
Faut que ce soit propre, quoi, toute cette
affaire. Faut que ce soit propre. Ouais. Donc, tous ces produits, notamment les brumes et les diffuseurs, c'est des bases aussi qui sont sans alcool. Donc, il n'y a pas d'évaporation d'alcool dans l'air. C'est compliqué à doser parce que du coup, ça modifie aussi le parfum et la façon dont il va se diffuser. Quand il n'y a pas d'alcool, du coup, la pyramide est plus difficile à garder avec bien les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. Mais bon, ça, c'est un travail qu'on fait avec les parfumeurs. Ouais. Mais voilà, quoi, c'est une base sans alcool et des produits sans CMR et sans phtalate. La brume, ce n'est que ça. Il n'y a pas 40 000 additifs ou je ne sais quoi. L'idée, c'est vraiment d'aller sur un truc le plus clean possible.
Ouais. Bah, en tout cas, moi, les amis, je vous partage, je fais un retour d'expérience. Hein. Jérémy peut le faire aussi. Déjà, là, c'est hyper délicat. L'odeur qu'on a, et c'est pas tous les jours chez Radio Hull, parce qu'on a de la pierre quand même dans le studio. Et la pierre, vous le savez, sa vie, et ça fait sa vie comme ça en vie. Hein. Là, ça sent vachement bon dans les studios. Tu disais, je veux que chaque odeur raconte une histoire. Chaque odeur se raconte. Comment tu es partie quand même sélectionner tout à l'heure, j'en ai senti une, c'est de la rose de Damas, et je l'ai trouvée magnifique.
C'est une rose antique, effectivement, à base de rose de Damas.
Ouais.
Alors, comment j'ai sélectionné Je vais être très honnête avec toi. Ouais. Je suis allée sur un certain nombre de sites, des sites de fabricants français, mais aussi de fabricants espagnols. Et à Noël dernier, je pense que dans ma famille, ils ont tous eu des bougies parfumées, des sprays, etc. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai fait mon petit sourcing pour voir tout ce qui se faisait plus ou moins et aller tester des tonnes d'odeurs. Et il se trouve que...
Ouais.
Dans le tas, il y avait les produits d'un artisan cirier qui est à Saint-Martin-du-Var, une dame voilà, avec qui je travaille, et on a noué une belle collaboration. Elle est originaire de Toulouse, à la base.
D'accord.
Et je suis tombée amoureuse de ces produits, et amoureuse vraiment de la simplicité du truc, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bougies, soit ça fait trop synthétique, soit il y a beaucoup de fioritures autour. Moi, je veux aller sur quelque chose, alors certes d'orientalisant, mais quand même d'assez minimaliste. Hein,
le packaging est très classe, et tu as raison, minimaliste, il a juste ce qu'il faut de... Moi, je trouve que ça fait très mille et une nuits. Je trouve personnellement qu'il y a une touche comme ça, mais ça, voilà. Et puis c'est sobre, quoi. C'est vachement beau.
Merci.
Ouais. Non, mais vraiment, c'est. Je trouve que même c'est réconfortant. Je sais pas ce que t'en penses, Jérémy, de voir ce Bordeaux là un petit peu profond. C'est magnifique.
Bah, c'est l'idée du. À l'époque du Moyen Âge, t'as beaucoup de tapisseries, t'as les premières soieries qui arrivent d'Orient aussi, les soies, les velours, etc. Et donc l'idée, c'est de ramener un petit peu ça.
Et faut pas oublier aussi que tu vois, là, j'ai une copine, c'est son anniversaire. Elle a tout dans la vie, tant mieux pour elle, et je suis heureuse, tu vois. Mais du coup, le problème de ces copines-là, c'est que ce que tu vas leur offrir, ce sera toujours naze. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elles ont tout. Mais je me dis, bah, tu vois, par exemple, je vais offrir une bougie. Et en fait, je me dis, c'est un moment, une bougie aussi, tu vois. Une odeur de se déclencher ça. Ça déclenche un souvenir, ça déclenche une Madeleine de Proust. C'est ça aussi que tu as voulu aller chercher, d'aller chercher des moments.
Moi, ce que j'adore faire avec les bougies parfumées, alors les miennes ou pas les miennes, hein, parce qu'il y a plein de produits qui sont très intéressants, et je me mets dans mon canapé, je prends un bon bouquin et je me fous la bougie à côté.
Ouais, voilà.
Et si je suis en forme, je prends un petit verre de vin.
C'est ton... À consommer avec modération, mais c'est ton moment.
Mais c'est mon moment. Quoi. Et Dieu sait qu'avec 4 enfants et tous mes projets, j'en ai pas beaucoup des moments
c'est clair.
Pour moi. Ouais. Mais j'aime bien avoir. Alors, faut pas que ce soit trop entêtant, encore une fois. Mais alors, la petite bougie, le verre de vin, le bon bouquin, etc. Et ne serait-ce que 20 minutes tranquille, juste pour soi, ben moi, je trouve ça pas mal.
Tu sais que moi, quand j'allume une bougie, Mon mari dit oulala, ça va mal. Genre, ça veut dire vraiment, c'est pousse. Quand j'allume une bougie, tu vois, c'est que oulala, pousse, là, faut que je. Tu vois, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est un.
Il y a un côté
moment...
réconfortant, ouais, un peu voilà. Antidépresseur, effectivement.
Ouais, un moment à toi qui t'appartient, tu t'allumes ta lumière, quoi, ou tu te la rallumes.
Effectivement, dans ces cas-là, ouais. Tu remplaces le verre de vin par le pot de Häagen-Dazs et ça fait le job.
Que des bons conseils ce matin sur Radio Bulle. Même le pot de glace se consomme avec modération. Les amis, attention. Alors, moi aussi, je voulais vraiment qu'on en termine par là parce qu'on a fait une jolie interview, mais de toute manière, on va revenir. On va venir te voir chez toi, au château de la Gravade, à Leyrac. On va aller voir un petit peu cet univers et aussi toute cette déclinaison. Tu disais, c'est un vrai pari sur l'avenir à l'heure où, effectivement, l'intelligence artificielle nous offre beaucoup, mais peut aussi nous prendre des choses qui nous appartiennent à nous en tant qu'être humain, de se raccrocher comme ça à l'artisanat, à mettre sa patte, à revenir dans des choses concrètes qu'on peut toucher. Est-ce que c'est pas aussi pour toi prendre le contre-pied et ouvrir aussi de nouvelles perspectives et de poser un regard différent sur l'entrepreneuriat aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des métiers qui vont pas s'éteindre, mais voilà, qui vont un petit peu s'altérer par la force des choses.
Alors, la réflexion de départ, effectivement, j'en étais pas encore arrivée au parfum d'intérieur, mais il y a une vraie réflexion de départ. Moi, je viens du monde du marketing. Je pense que j'ai commencé à utiliser ChatGPT au moment où il est sorti en France, donc ça fait déjà 2 ou 3 ans. Et je travaille au quotidien avec Claude, avec Perplexity et avec d'autres outils IA. Je me rends bien compte que mes métiers à moi, notamment sur la production de contenu, de facto, ils vont être modifiés, voire sur certaines franges, je veux dire, l'IA fera mieux que nous, ou du moins plus vite. Après, peut-être pas forcément.
Ouais, je pense que c'est une question de rapidité, après, d'efficience, voilà, mais t'as raison.
Faudra peut-être qu'on fasse une autre émission sur les enjeux de l'IA.
Bien sûr,
parce que c'est des sujets qui sont absolument passionnants. Ouais. Aujourd'hui, la limite de l'IA, c'est qu'effectivement, elle n'a pas d'esprit critique, elle n'a pas de libre arbitre, elle manque de biais cognitifs. Et c'est ce qui fait encore la richesse de l'être humain. Mais aujourd'hui, en marketing, ce sont des métiers qui vont beaucoup évoluer. Et moi, je sens bien qu'en conseil en marketing, forcément, j'ai des marchés qui se ferment ou qui vont se fermer.
Ouais.
Et puis, j'ai un autre problème aussi, c'est que un modèle de conseil, il a un plafond de verre, c'est le temps. Et moi, j'ai 4 enfants. J'en ai pas beaucoup. J'ai 2 petites qui sont vraiment toutes petites. Je voudrais bien passer un peu de temps aussi avec elles.
Voilà, c'est pour elles le temps, quoi.
Absolument. Alors, je sais, c'est assez courant chez les femmes chefs d'entreprise qui disent « je veux entreprendre pour avoir plus de temps ». Alors, je précise que je dois bosser à peu près 80 heures par semaine.
Clair, c'est un a priori qu'on a. Donc, c'est juste que ton temps, tu te le modèles comme tu veux, mais ça ne veut pas dire que tu travailles moins, en fait.
Absolument. C'est-à-dire moi, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est d'être en capacité de se dire, entre 16 heures du moment où je vais chercher mes gosses à l'école ou à la nounou et 20 heures jusqu'à ce qu'ils soient couchés, je suis pleinement avec eux. Mais par contre, oui, tous les soirs, je repars bosser entre 21h et 3 ou 4 heures du matin. Faut en être conscient, l'entrepreneur. C'est pas un long fleuve tranquille où il faut pas y aller en se disant chouette, c'est la liberté, je vais bosser 2 fois moins. Hein. Non, c'est on va bosser 2 fois plus. Si on veut que ça marche, il n'y a pas 36 alternatives. Il y a une réflexion autour de ça, effectivement, et sur le fait que j'avais aussi envie, et c'est pas une critique vis-à-vis de mes clients que j'adore, et voilà, mais il y avait envie d'avoir un projet pour moi.
Ouais.
Moi, je fais souvent du marketing pour les autres.
Ouais.
Et là, j'ai aussi besoin, et je trouve que c'est intéressant aussi dans mon métier de consultant, c'est que finalement, les recettes que je préconise, je les teste aussi. Quoi.
Ouais. C'est clair.
Donc, il y a un côté, effectivement, j'aime pas le conseil pour dire, tiens, voilà ton catalogue, ton rapport de préco qui fait 400 pages. C'est 10 000 euros, merci, circuler, il n'y a rien à voir. Non, je veux dire, c'est l'intérêt du marketing, c'est d'être aussi capable de le déployer. Et moi, de toute façon, c'est lié à mon tempérament. Moi, j'ai besoin d'avoir les mains dans le cambouis. Et j'ai besoin d'avoir un projet de A à Z. Donc, ça répond aussi à cet impératif-là.
Est-ce qu'on peut déjà se procurer les produits d'Alignoria?
Alors, brume et diffuseur, oui, absolument. Les bougies, elles sont en pré-vente sur le site alignoria.fr et elles seront expédiées à partir du 15 mai.
Bon, c'est
donc
bon.
Pour la fête des mères, c'est bon.
Trop bien. Eh bien, écoutez, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Testez les produits et les senteurs Alignoria surtout, et cet univers qui est fabuleux et dont le point de départ, c'est quand même une figure historique locale, Aliénor d'Aquitaine. prochaine. Merci beaucoup Cécile Hennequin-Pavageau d'avoir pensé à Radio Bulle pour venir nous présenter ta nouvelle entreprise. Mmh. Et puis on viendra au château de la Gravatte puisque c'est là où tu résides, à l'Eyrac. Dans les prochains mois, le rendez-vous est pris.
Eh bien, je suis ravie de vous accueillir.
Jérémy, à très vite, tu peux aller faire dodo maintenant ?
Oui, je vais aller me reposer un petit peu.
Rompez ! Les amis, on se retrouve juste après le top de la musique sur Radio Bulle, rythme la jeunesse.